Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro pour cette édition d'Escale portant sur la gestion du stress au sein des opérations de l'ONU. Le personnel de l'ONU étant souvent confronté à des situations de difficulté et de stress critiques sur le terrain, l'organisation s'est dotée du CISMU, le groupe de gestion du stress traumatique. Le CISMU apporte un appui dans la gestion du stress et de la prévention des traumatismes, dans la gestion du stress des incidents critiques et dans le développement des politiques de protection et de bien-être du personnel. Pour en savoir plus et tirer quelques conseils, nous recevons dans nos studios le docteur Moussa Ba, directeur du CISMU à l'ONU.
Lorsque l'unité a commencé en 2002, on répondait en général à certaines situations parce qu'à l'époque quand même, les Nations Unies étaient dans un système de protection. Quand il y avait des problèmes, on évacuait le personnel. Mais de plus en plus, depuis quelques années, on a changé la manière de fonctionner. On est là pour aider à implanter les programmes des Nations Unies et pour aider un tout petit peu aussi à faire la paix. Non plus seulement maintenir la paix, mais arriver à la paix. Ce qui fait que notre personnel vit dans des conditions extrêmement difficiles. On peut avoir des gens qui voient des atrocités, qui vivent au milieu des guerres, les attaques terroristes. Certaines situations dans certains pays, ce que nous avons, c'est que par exemple, quand il y a des tremblements de terre, nos personnels sont là pour apporter l'aide humanitaire. Et d'autre part aussi, dans certains pays où la criminalité est extrêmement grave, parce que les pays sont très pauvres. En général, les gens vivent et survivent à travers les crimes, le vol, un ensemble de choses. N'oublions pas non plus un élément qui est extrêmement important, c'est que pendant les guerres, les prises d'otages sont utilisés ou aussi le viol. Et tout ça, c'est un ensemble de problèmes et de choses que nous gérons lorsque notre staff est exposé à ces différents phénomènes.
Alors, quel genre de réponse apportez-vous ?
L'horreur, c'est l'horreur. Donc, c'est normal qu'on pense de façon négative et c'est normal qu'on voit le monde sous un autre angle. C'est normal aussi quand il arrive un problème qu'on se dise, ce qui est arrivé, qu'est-ce que j'aurais dû faire ? J'aurais dû faire quelque chose. Donc, ce que nous faisons, c'est arriver à discuter avec les gens, à créer un espace où on arrive à relativiser toutes ces pensées-là, leur montrer que nous sommes là et qu'il y a des gens qui sont là, des experts qui peuvent apporter des solutions et des réponses, à les accompagner pendant cette période difficile. Par exemple, je pense à certains cas où il y a eu des gens qui ont été victimes de prise d'otage. Ce que nous faisons, nous accompagnons les familles. Parce qu'il n'y a rien de plus horrible quand un mari ou un enfant a été pris en otage. La famille se tourne les pouces et se dit « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Dans ces cadres-là, nous accompagnons la famille pour les aider à traverser cette période difficile. Nous les écoutons et nous leur donnons des conseils en général pendant tout le processus pour éviter aussi qu'ils fassent des erreurs qui peuvent nuire un tout petit peu aux interventions que les Nations Unies sont en train de faire en douce. Parfois, on a des cas où c'est très difficile. Par exemple, il y a des gens où les familles meurent. Notre rôle, c'est d'accompagner la famille dans tout le processus de deuil pendant cette période-là. Il y a des gens qui réagissent dans leur deuil de façon ouverte. Il y a d'autres qui gardent le processus. Notre rôle, c'est de normaliser un tout petit peu leur réaction et d'être là et de les accompagner dans tout ce processus. Ce qui est grave, c'est que quand quelqu'un traverse une période difficile, s'il n'y a pas un professionnel qui est là pour les aider à restructurer les systèmes de pensée, les gens se trouvent dans une prison. J'aurais dû faire ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ? Et on prend des pensées négatives et c'est comme ça que petit à petit, on s'achemine en ligne droite vers le traumatisme. Et quand on entre dans ce qu'on appelle le PTSD, le traumatisme, c'est très difficile d'en sortir. Donc notre rôle, c'est de tout faire, tout mettre en place pour montrer un support, un accompagnement dans les périodes difficiles pour que les gens ne basculent pas vers la maladie. Nous travaillons avant la maladie. C'est ça que CISMO fait pour éviter qu'un traumatisme s'installe. Parce qu'une fois que le traumatisme s'installe, ça prend énormément d'argent, ça prend énormément de temps pour restructurer. Alors qu'au départ, on est exposé simplement, il suffit d'apporter le soutien nécessaire pendant la période.
C'est de libérer de sentiments de culpabilité ou de faillite notamment ou...
Voilà, c'est aider l'être humain à se libérer de ce qu'il considère un sentiment de culpabilité, un sentiment de faillite, un sentiment de négligence. Vous savez, quand on traverse une crise, une période très difficile, même dans les sociétés traditionnelles, c'est important d'avoir quelqu'un qui soit là, qui ne vous juge pas, qui vous apporte la chaleur et vous savez que vous pouvez vous appuyer sur cette épaule-là. Ce que nous faisons, ce n'est pas simplement cet appui, mais c'est un appui éclairé parce que nous sommes des techniciens et nous connaissons ce travail-là. Alors nous, ce que nous faisons, c'est arriver à dire les mots juste et à les mettre en place pour que la personne sache qu'il y a cet appui-là et évite de basculer dans le néant et dans la détresse.
L'accompagnement que vous faites des employés, il dure combien de temps normalement?
Alors, il est connu que quand quelqu'un traverse une période de crise, dans les 3 mois, en général, il y a un réaménagement au niveau de l'organisme, au niveau de la pensée, au niveau de la manière d'être et de faire. Et après 3 mois, il y a une chance que s'installe un trauma. Et nous, nous fonctionnons avant le trauma. C'est là que nous sommes très actifs. Après les 3 mois, s'il y a encore des résidus ou des symptômes qui sont assez clairs, nous référons au médical et ils sont suivis là-bas. Ce qui ne nous empêche pas non plus de les voir de temps en temps par la suite. Jusqu'à présent, on reçoit des coups d'appel de gens qui avaient vécu le bombardement d'Irak, d'Alger, on reçoit et puis on regarde un tout petit peu comment ça se passe. Mais habituellement, notre zone d'intervention, c'est dans les 3 mois avant que ne s'installe une maladie.
Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés?
Ça, c'est très intéressant. Notre unité a été créée en 2000. Il est devenu opérationnel en janvier 2003. Il était composé ici au siège de 5 personnes. Et jusqu'à présent, c'est ce que nous avons.
Pour gérer l'ensemble de l'organisation, oui. Et sur le terrain, il y a combien de personnes
sur le terrain? Ce que nous avons réussi à faire, nous nous sommes débrouillés quand même pour qu'au niveau des missions maintenant, qu'on ait des conseillers à la gestion, des conseillers du personnel. Mais les gens qui sont spécialisés dans la gestion du stress traumatique, c'est une unité de 5 personnes qui gère ce qu'il y a sur le terrain. Alors, si vous demandez les problèmes auxquels nous faisons face, je pense que c'est des problèmes humains. Et c'est des problèmes liés à la manière dont nous percevons les problèmes de santé mentale. J'ai l'habitude de parler de certains mythes. Je dis par exemple le mythe de la personne faible. Je discute avec un directeur d'une mission sur le terrain, qui est un grand professionnel, qui me dit « Vous savez, si on marche sous la pluie, on doit s'attendre à être mouillé. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens pour qui, quand on travaille au niveau des Nations Unies, on doit s'attendre à avoir le stress. Et que c'est inéluctable de vivre dans le stress et parce qu'on a décidé de venir ici, dans le système des Nations Unies. Alors j'appelle ça le système de Maktoub. Chez les Arabes, ils disent Maktoub, c'est le destin. J'appelle ça le mythe de Maktoub. C'est-à-dire, une fois qu'on est fonctionnaire des Nations Unies, on doit vivre, on doit avoir du stress. Ce n'est pas nécessaire. Je pense que c'est bon d'être sous la pluie, mais si on a un parapluie, ça aide énormément. Et c'est notre rôle de faire en sorte que l'organisation reconnaisse la nécessité de mettre en place des structures pour prendre en charge le personnel qui est sous la pluie, pour qu'il puisse au moins se prévenir d'être mouillé. Ça, c'est un élément. On a un autre élément, je pense à un autre senior manager qui me dit, écoutez, ça coûte très cher, il y a des difficultés, le staff et tout ça, c'est vrai, on comprend, mais quand on ne peut pas supporter la chaleur, il faut sortir. Autrement dit, le problème du stress, c'est un problème des gens qui sont faibles. Il y a des gens qui peuvent supporter la chaleur et ne pas se brûler. C'est ça qu'ils disent. C'est le problème des faibles. Donc, il y a tous ces mythes qui font que les gens ne viennent pas. Ce qui est faux. N'importe quelle personne peut avoir un problème de stress et un problème de trauma. Ça dépend de quand c'est arrivé, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel cette personne était. Mais ça n'a rien à voir avec une personne forte. Ça n'a rien à voir, c'est humain. Et puis, plus on est dans des situations et plus on arrive à un moment déterminé. L'organisme dit « je suis fatigué » et ça arrive. Seulement, ce mythe-là fait en sorte que les gens qui ont des problèmes ne viennent pas parce qu'ils se disent « je suis faible, je n'aurais pas dû ».
Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là alors?
J'ai un ami qui a écrit un livre qui dit « it's okay not to be okay ». C'est normal, il faut accepter. Quand ça ne va pas, accepter que ça ne va pas. Quand on n'est pas bien et qu'on sent qu'on est fatigué et qu'on ne peut plus, je pense que c'est un courage que ça nous prend de dire « j'ai besoin d'aide, je m'arrête ici et je ne peux plus ». Il faut aussi savoir se gérer, écouter son corps. Notre corps nous parle en permanence. La majeure partie du temps, nous ne l'écoutons pas ou nous l'ignorons. On n'est pas très amis avec notre corps.
On le met de côté pour...
Pouvoir continuer parce qu'on se dit simplement, on est des Superman. Ça renvoie à un mythe que je voulais aborder, c'est le mythe du Superman. J'ai connu un très grand leader qui me dit, non, nous, notre rôle, c'est d'aider les gens. On n'a pas le temps à perdre avec nos émotions personnelles. C'est le mythe du Superman. Qui que nous soyons, nous avons des périodes où nous avons besoin de prendre nos énergies. Il n'y a pas un être humain qui n'ait pas besoin de se reposer et qui n'ait pas besoin de s'écouter. Et ce qui fait que nous avons énormément de personnel au niveau du senior management qui sont pratiquement burn-out. On sait que de plus en plus, les gens boivent beaucoup dans les missions pour pouvoir continuer à fonctionner. On prend certaines attitudes à risque qui n'aident pas beaucoup le personnel parce qu'on travaille tellement difficile. On se dit, on mérite de nous amuser, on part, on s'amuse, on prend des risques inappropriés. Et je pense que tout ça, c'est un ensemble de choses qui sont liées au stress qui n'est pas adressé correctement. C'est normal quand on est fatigué qu'on s'arrête. Quand on a besoin d'aide, qu'on demande de l'aide. Et lorsque vous commencez à sentir que vous vous levez le matin, vous avez des difficultés et vous vous rendez compte que vous commencez à ne pas réagir de la même manière, peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais les gens autour de vous se rendent compte. Si une personne ou deux vous disent « mais vous êtes devenu très nerveux, mais ces temps-ci, pendant les réunions, quand même, votre voix s'élève » ou bien « vous restez au bureau de plus en plus tard », ça veut dire simplement que vous n'arrivez plus à faire ce que vous faisiez de façon effective. C'est pour ça que vous sentez le besoin de rester de plus en plus tard. Il faut s'arrêter pour prendre soin de nous.
Il faut prendre un congé alors? Il y a des programmes de rétablissement justement?
C'est pour ça que les rest and recuperation qui sont dans les duty stations à problème, il ne faut pas que les gens les ratent. C'est très important qu'on les prenne.
Et sont obligatoires ces congés?
Ils sont obligatoires, ça c'est important. Et quand les gens ne les prennent pas, on a énormément de difficultés. Savoir se reposer et prendre des congés. On a 7 jours d'uncertified sick leave. Quand il y a des problèmes, on a un ensemble de policies qui sont là sur lesquelles on peut s'appuyer pour nous refaire une santé. Il ne faut pas les rater. On n'est pas des Superman, on est des êtres humains comme tout le monde.
Mais est-ce qu'on ne va pas être mal perçu derrière?
C'est ça le problème. C'est pour ça que je parle de tous ces mythes. Le mythe de Martoub, le mythe du Superman, le mythe de la personne faible. Ça, ce sont les mythes qui rendent notre travail difficile. Et il faut qu'on les attaque.
Mais quand même, on peut être confronté à un problème logistique si on arrive à un moment où on est fatigué et qu'on n'arrive plus à avoir le même rendement qu'auparavant. On peut avoir le courage de venir et de dire, voilà, j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin de faire stop. Mais ce n'est pas forcément quantifié. Est-ce qu'on sait qu'il faut prendre 10 jours et qu'au bout de 10 jours, il y aura une grande différence? Ou est-ce que c'est quantifiable?
Dans le monde idéal où les gens n'auront plus peur, n'auront plus honte de parler à un professionnel, on irait demander de l'aide simplement. On appelle, on dit « Ah, je sens ça, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Écoutez, quand vous avez une difficulté dans votre ordinateur à gérer un truc, vous demandez de l'aide avec cet ordinateur, avec un expert. Quand dans votre vie vous avez des difficultés, acceptez de donner le témoin à quelqu'un qui a passé 20 ans, 30 ans, 40 ans de sa vie à aider. Il s'y connaît nécessairement mieux que vous. Il y a des éléments au niveau du système qui sont en place. Si vous discutez avec un professionnel, vous voyez un médecin, vous voyez quelqu'un, il peut vous dire non, mais reposez-vous, prenez tel nombre de jours, prenez un congé. Et si vous ne pouvez pas, aller voir un médecin, aller voir un counselor, ils sont là, c'est leur rôle, c'est leur métier. Je pense que c'est important. C'est pour ça que je dis dans le monde idéal où on n'aurait plus tous ces mythes qui pèsent de tout leur poids dans notre vie, ce serait vraiment très intéressant dans ce monde-là. Les gens n'auront pas de problème à prendre le téléphone ou à aller voir un expert qui leur donne un conseil.
On arrive vers la fin donc de notre échange. Le secrétaire général des Nations Unies a lancé cette année une nouvelle stratégie pour la santé mentale. Alors, lors du lancement, il a souligné le fait que selon un sondage, il y aurait 49% du personnel de l'organisation qui dit pâtir d'un trouble psychique. Comment est-ce que vous voyez cette statistique et quelles réponses souhaiteriez-vous voir?
Je crois qu'il a touché du doigt un problème, c'est qu'on a été pendant très longtemps aveugle à la réalité de notre personnel. Les chiffres sont peut-être un peu trop élevés, mais ça montre qu'il y a de gros problèmes au niveau de la santé mentale. Et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il y ait cette stratégie de santé mentale pour qu'on arrive au moins à mettre en place tout ce qu'il faut pour notre personnel. C'est important quand une organisation emploie des gens qu'elle fasse tout pour s'occuper de son bien-être. Et heureusement que le secrétaire général a le doigt dessus. Et c'est un ensemble de stratégies pour aborder comment on va diminuer les problèmes de santé mentale. Mais ce n'est pas très juste de voir uniquement problème de santé mentale, c'est le bien-être. Comment améliorer le bien-être du personnel des Nations Unies. C'est ça le but ultime. Et le rôle du SISMO à ce niveau-là, dans ce comité, c'est identifier les causes de stress gérées, prévenir, faire en sorte que les gens ne basculent pas dans la maladie, faire une formation, faire des évaluations, dans la prévention primaire et secondaire. C'est là que nous nous situons. Il y a un ensemble de choses qui sont liées aux assurances, qui sont liées au médical, qui sont liées à un ensemble de mesures au niveau des ressources humaines. C'est vraiment un plan global et je crois qu'il était temps qu'on mette en place ces différents éléments. Lorsque nous avons commencé en 2003, nous gérions une ou deux crises par an. Aujourd'hui, nous gérons en permanence parfois 5 à 10 crises en même temps et en permanence. Ça veut dire que nous n'opérons plus dans le même environnement et le personnel est de plus en plus dans des zones qui sont extrêmement difficiles. Avant, les UN étaient très protecteurs de son personnel. On évacuait le personnel. Mais maintenant, le paradigme, c'est comment on reste pour implanter le mandat des Nations Unies, quelles que soient les circonstances. Donc, c'est important et vraiment, c'est une très bonne chose qu'il y ait eu cette stratégie de santé mentale pour améliorer le bien-être du personnel des Nations Unies.
Et c'est avec les propos de Moussa Ba que se referme cette édition d'Escale consacrée à la gestion du stress au sein des opérations de l'ONU. Escale, un magazine hebdomadaire des Nations Unies présenté cette semaine par Christina Silvero avec la collaboration de Florence Westgaard et Carlos Macias. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.